Merci Jorgen et merci Jangan pour ta prière. Alors, c'est la deuxième semaine de suite que j'ai le privilège de partager le message avec vous. Alors que j'ai presque envie de dire que Jorgen a donné mon message, en quelque sorte, quand il a dit la phrase Jésus priait et il était dans l'action. Mais je vais quand même vous partager un peu ce que j'ai sur le cœur ce matin. Donc, on avait vu la semaine dernière que depuis le début de la Bible, depuis le début des promesses de Dieu pour l'humanité, il avait déjà cette idée en tête que l'évangile, la bonne nouvelle que nous connaissons en Jésus-Christ, se propage et soit un cadeau pour toute l'humanité, pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Et comme on le voit, Jésus, il lance ses disciples de Jérusalem et il les envoie de par la terre entière. Et on a aussi vu que ce plan continue aujourd'hui. Que c'est encore une réalité pour nous ici sur Terre de partager cette bonne nouvelle, de continuer à la partager, la faire avancer, parce que pas tous n'ont entendu encore. On a des gens dans notre entourage, on a des gens autour de nous qui n'ont pas entendu, qui ne connaissent pas Dieu, et on a des gens dans le monde, dans d'autres cultures, dans d'autres peuples. Qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus, tous autant qu'on est, à faire avancer ce plan pour Dieu. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de mon message la dernière fois, je vous avais laissé avec une citation du prédicateur Charles Spurgeon. Et je vais juste vous le rappeler, c'est ainsi qu'il débute son discours sur l'appel au ministère qu'il donnait à ses étudiants qui allaient devenir pasteurs. Tout chrétien qui en a la capacité a le droit de diffuser l'évangile. Il en a non seulement le droit, mais aussi le devoir de le faire tant qu'il vivra. Il fait référence à Apocalypse 22, 17. La propagation de l'évangile est laissée non pas à quelques-uns, mais à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, selon la mesure de la grâce qui lui est conférée par l'Esprit Saint. Chacun est tenu d'exercer son ministère à son époque et dans sa génération, tant à l'Église qu'au sein des non-croyants. Et du coup, la semaine dernière, on avait vu cette vision globale et aujourd'hui, on va un petit peu se demander, comme Jorgen s'est demandé ce matin, comment est-ce qu'on peut répondre à ce plan global? Comment est-ce que nous, on est emmenés à interagir avec cela? Et pour se poser ces questions, on va rester dans Romains 15, mais on va aller au verset 14 à 33, donc ceux qui veulent ouvrir la Bible peuvent. Allez, dans Romains 15, 14 à 33. Et on va regarder la vie de Paul et comment cet apôtre a interagi, on va dire, avec ce plan de Dieu pour les nations. Donc, juste pour vous rappeler brièvement, Romains, c'est une lettre très dense, plein de bonnes choses qui explique et qui va vraiment dans la profondeur. Et de manière très documentée, explique l'évangile. Et les 12 premiers chapitres sont vraiment des chapitres théoriques. Ensuite, du chapitre 12 au début 15, on est beaucoup plus dans l'application. Donc, Paul invite l'Église de mettre en application la théorie qu'il venait de donner. Mais là, au chapitre 15, on est dans une partie un peu différente. C'est vers la fin de la lettre de Paul, c'est vers la conclusion. Et à cette partie-là, Paul fait une espèce de transition où il va parler, il va décrire son ministère et aussi sa motivation pour écrire la lettre de Romains. Donc on avait vu que la dernière fois, on avait dézoomé complètement, mais là on va zoomer à fond sur un bonhomme, sur Paul, l'apôtre Paul. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 15, versets 14 à 33. Donc c'est un peu de lecture, mais je vous encourage vraiment à vraiment écouter le texte et on va en parler ensuite. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour emmener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédonie et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je les aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Alors là, on n'est pas du tout dans de la théorie, on n'est pas du tout dans même une mise en application, on est dans quelque chose de très concret. Paul écrit aux Romains, il leur explique sa situation, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Pourquoi il a écrit cette lettre, pourquoi il prêche là où il prêche, pourquoi il va où il va, pourquoi il ne va pas où il ne va pas. La prochaine chose qu'il va faire, il est en train de leur expliquer tout ça. Et je voudrais juste dire deux, trois choses. Donc, Paul, c'est un apôtre, c'est un des pères fondateurs de l'Église. Et c'était l'apôtre envoyé aux non-juifs, envoyé aux nations. Donc, c'est important pour nous de prendre exemple sur lui. Mais on n'est pas tous appelés à être apôtres. Et il n'y a pas, y a, on est d'ailleurs aucun de nous est appelé à être apôtre comme Paul l'a été. Mais on est appelé tous et chacun à être disciple et à suivre ce que l'appel que Dieu il a pour nous. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est pas vous convaincre de tout de suite passer dans l'action ou de faire plus pour l'évangile. Ce que je veux essayer de vous partager aujourd'hui, c'est comment gagner une vision de ce que Dieu veut pour vous, comment accueillir cet appel sur nos vies, et ensuite comment la mettre en œuvre de manière pratique. Et donc, c'est les trois choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Paul, il a une vision claire de son appel et de son ministère. Et il accueille cet appel avec un cœur de serviteur. Il accueille cet appel comme une grâce, comme un cadeau qu'il reçoit. Et ensuite, troisièmement, il la met en œuvre concrètement. Il y a une projection dans l'action. C'est pas comme on connaît tous ce verset, lire la parole de Dieu et ensuite ne pas la mettre en pratique. C'est comme regarder son visage dans la glace et ensuite l'oublier. Non, là, Paul va vraiment mettre en application sa vision et son appel. Il va la mettre en œuvre. Donc d'abord, il a une vision claire de ce que c'est son appel. Et je trouve que cette vision, on la voit bien au verset 16. À cause de la grâce que Dieu m'a faite, et là on a sa vision, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Donc il a un public cible qui est clair, comme Jésus avait un public cible à son époque qui était clair et qui faisait sens dans le plan global de Dieu. Jésus, il prêchait aux juifs, Paul, il prêche aux non-juifs. Il va même plus loin dans la vision qu'il a. C'est que il n'est pas venu à Rome parce qu'il devait d'abord prêcher dans un rayon de Jérusalem à Achaïe, je crois. Et donc il est vraiment resté fixe, centré sur ce qui était son appel. Et on voit cet appel qui se précise, ou cette vision qui se précise pour lui, au verset 20. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il était écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque quand Paul, dans 1 Corinthiens 3, parle du fait que certains sont appelés à planter, comme lui, et d'autres sont appelés à arroser, comme Apollos. Et qu'est-ce qu'il dit exactement dans 1 Corinthiens 3, verset 8? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc non seulement est-ce qu'il a une vision claire de quel est son public, mais en plus il a une vision claire de quel est son rôle par rapport à ce public. C'est un rôle de poser les fondements de l'évangile. Ça, c'est son rôle en tant qu'apôtre, c'est de faire cela. Donc, les non-juifs, et ils posent les fondements. Et troisièmement, on le voit à la fin du verset 21, comme on vient de lire, il cite Ésaïe 52, verset 15. Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Paul s'inscrit pleinement dans la parole de Dieu, dans ce plan de Dieu, son action, son appel, c'est pas un truc complète qui n'a, c'est pas un truc complètement farfelu. C'est vraiment, il va annoncer l'évangile à ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce que ça, c'est ce que Dieu il avait prévu dans son plan, et il s'inscrit parfaitement dans le plan de Dieu pour les nations. Donc, on voit qu'il a vraiment une vision claire, un appel clair et précise. Il sait exactement vers où aller. Ensuite, deuxièmement, on voit la manière dont il accueille son appel. Et là, on le voit de nouveau au verset 16, il me semble. Ah c'est ça, c'est juste après. Et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Donc il appelle son appel, son ministère, il l'appelle une grâce. Il l'appelle un cadeau. En fait, il accueille ce ministère comme un cadeau et comme une grâce. Et moi, j'ai envie de parler de ma propre vie et comment ce verset m'a impacté, parce que combien de fois dans ma propre vie est-ce que je peux prendre l'appel que Dieu il a sur ma vie, tout le ministère qu'il me donne, le travail qu'il met devant moi, combien de fois est-ce que je peux le prendre comme un fardeau, je le prends sur moi et je suis un peu grognon et je suis pas satisfait de ce que Dieu m'a donné. Paul, il vient avec un cœur de serviteur. Et il prend ce travail que Dieu il lui a donné, ce travail bien précis, il le reçoit comme une grâce. Et après, comment il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas par sa propre force? Il le fait par la puissance de l'Esprit de Dieu en lui. Ça, on le voit au verset 19. Et donc, il le prend comme un cadeau et il ne le porte pas tout seul, il le porte avec Dieu. Et enfin, dernièrement, au verset 16, il parle de ça comme une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit-Saint. Donc, ça veut dire que non seulement est-ce que c'est une grâce pour lui de servir Dieu, de prêcher l'Évangile, c'est un cadeau pour lui de faire ça. En plus, il le fait pas par sa propre force, mais avec l'Esprit-Saint. Mais dernièrement, il le fait comme une offrande, comme un culte, comme une offrande agréable à Dieu. Donc, tout son être, il a vraiment un cœur de serviteur. Et il vient pour honorer, pour glorifier Dieu. Il vient pour, il prend ce travail que Dieu lui donne et il le rend à Dieu comme une offrande qui a une bonne odeur. Et je veux m'encourager, mais je veux aussi vous encourager quand Dieu vous appelle, même dans les petites choses. Faites-le avec plaisir, faites-le parce que Dieu vous fait grâce de rentrer dans son plan. Et ne le faites pas par vos propres forces. Priez constamment, remettez-le au Seigneur, ce qu'il vous demande. Et offrez-lui une belle offrande de votre travail, quel que soit votre appel. Donc on a vu que Paul a une vision claire, il sait exactement vers quoi il est appelé. Deuxièmement, il reçoit cet appel comme un cadeau. Et troisièmement, on va voir qu'il le met en œuvre, qu'il se projette dans l'action. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Jorgen avait un peu résumé mon message dans ces deux phrases. Jésus priait et il était dans l'action. Parce que ces deux premières choses, donc la vision et la manière dont on l'accueille, notre appel, elles viennent d'abord dans une relation avec Dieu. Elles proviennent de notre intimité avec Dieu. Elles proviennent du fait qu'on connaît Dieu, qu'on connaît son cœur, qu'on passe du temps dans la prière pour les gens autour de nous, qu'on passe du temps dans la prière pour ce que Dieu fait, qu'on passe du temps dans la lecture de sa parole, qu'on apprend à connaître Dieu. C'est des temps qui ne sont pas forcément dans l'action, mais c'est quand même une action, c'est une intentionnalité spirituelle, c'est une relationnelle au contact avec Dieu. Et seulement après vient l'action, mais elle vient. Donc, donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce message, je ne veux pas juste vous encourager à mettre encore une case sur votre to-do list qui sont, je suis sûr, déjà bien trop chargées. Mais je veux vous inviter à rentrer dans l'intimité de Dieu et d'éclaircir votre vision. Demandez-lui, Seigneur, quelle est ta vision pour moi? C'est quoi ton appel pour moi? Parce que si moi, Ethan, j'allais faire apôtre et que ce n'est pas mon appel, c'est pas l'appel de Dieu sur ma vie, et si je le fais par ma propre force, je vais me planter. Donc, basons-nous en Christ, basons-nous en Dieu, basons-nous en lui et cherchons quel est son appel, sa vision dans nos relations avec les gens autour de nous aussi, apprenons à connaître nos forces, nos faiblesses. Ensuite, acceptons cela avec un cœur de serviteur et ensuite, passons à l'action. Et donc, on voit ici que Paul répond de manière forte. Déjà, rien que la lettre de Romains, on voit que c'est une réponse à l'appel de Dieu sur sa vie. Il le dit très clairement, je vous écris parce que je veux que vous soyez une offrande. Vous, les non-juifs, les Romains, l'Église de Rome, je veux que vous soyez une offrande de bonne odeur pour le Seigneur. Et c'est pour ça que même si je sais que vous comprenez bien les choses, que vous avez plein d'aptitudes, c'est pour ça que je vous rentre dedans un petit peu cette lettre. C'est pour ça que je vous encourage, je vous titille, je vous pousse. Ensuite, on voit qu'il a vraiment une réponse tridimensionnelle à son appel. Donc, des choses très concrètes. Il annonce l'évangile par la prédication. Verset 20, je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé afin de ne pas construire sur des fondations posées par un autre. Je veux partager, mon appel c'est de partager l'évangile aux non-juifs, je prêche, je partage. Il met en œuvre les dons que l'Esprit lui a donnés. Verset 18, en effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, il met en œuvre les dons que le Seigneur lui a donnés pour ce même objectif. L'exhortation et l'enseignement, donc c'est vraiment cette lettre, c'est l'exemple. C'est-à-dire que sa mission principale, oui, c'est de prêcher à ceux qui n'ont pas entendu, mais là, il prend une deuxième phase d'attaque. Il affermit des gens qui ont entendu, des chrétiens, une église. Il les a fermés pour les, comme je vous ai dit, pour qu'ils soient une offrande agréable. Et troisièmement, il planifie, il fait de la stratégie et il mobilise. Alors, où est-ce que je vois ça? C'est à partir du verset 22. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Donc, là, il se projette dans le futur. Si on regarde, si peut-être qu'on peut l'imaginer en train de regarder la carte du monde, et de penser à l'envoi que Jésus a fait, c'est ces mots que Jésus il a envoyés, il a envoyé ses disciples, et il pense, bon, maintenant, c'est quoi la prochaine région où je peux annoncer l'Évangile? Et il voit l'Espagne. Et après, il se dit, mais comment je vais y aller? Il ne va pas y aller tout seul. Il va mobiliser l'Église de Rome pour l'aider. Recevoir votre aide pour me rendre là-bas et vous voir en passant. Donc, ils mobilisent leur aide. Et qu'est-ce qu'il leur demande encore? Il leur demande de prier pour lui. Donc, il va leur demander l'accueil, il va leur demander l'aide pour aller d'un endroit à un autre. Et il leur demande de prier pour lui. Donc, ça c'est au verset 30. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Donc, non seulement est-ce qu'il leur demande de prier pour lui et pour sa protection personnelle, pour lui en tant que serviteur de Dieu, mais il leur demande aussi de prier pour la mission qu'il a et pour l'aide qu'il apporte à Jérusalem, que ce soit bien accueilli, donc pour le ministère même. Donc, ça veut dire qu'il est en train de mobiliser des gens pour l'aider à aller en Espagne. Il est en train de mobiliser des gens pour prier pour lui. Et il est aussi en train de leur donner un exemple d'une église qui donne généreusement à une autre église. Verset 26. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Alors, pourquoi est-ce que les saints à Jérusalem étaient pauvres? On peut penser à plusieurs choses. Il y avait une famine vers cette époque-là en Jérusalem, mais aussi, ils étaient très souvent exclus de la synagogue, du centre vital de la vie, à Jérusalem, le centre économique, le cœur battant de la vie, de la ville. Ils en étaient exclus parce qu'ils confessaient Jésus-Christ. Et donc là, on voit que Dieu a mis sur le cœur d'une église entre guillemets, de non-juifs, mais l'église de Christ, mais de non-juifs, a envoyé de l'argent à l'église, la première église de Jérusalem. Et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que c'est Paul qui emmène cet argent à Jérusalem? Comment est-ce que ça rentre dans sa vision? On vient de parler d'une vision claire pour les non-juifs. Pourquoi est-ce qu'il ne le déléguerait pas juste à un autre qui pourrait y aller? J'ai lu certains commentateurs qui disaient que ce cadeau était d'une importance capitale. Parce que, en fait, si l'Église juive acceptait ce cadeau, c'était comme une sorte de manière d'agréger le fait que les non-juifs puissent aussi bénéficier de la bonne nouvelle du Christ. Parce qu'on sait qu'à cette époque-là, où cette lettre a été écrite, c'est l'époque où à l'église de Jérusalem, il y avait ces conciles où on a plein de lettres qui en parlent, où Pierre parle du fait que lui, il croit que c'est pour tout le monde, mais d'autres font de la résistance. Non, c'est que pour le peuple juif et il y a tout ce combat. Et donc, Paul va donner ce cadeau aussi de cette manière-là pour montrer à l'église de Jérusalem qu'ils sont la même église. Donc, ça rentre pleinement dans sa mission d'intégrer les non-juifs dans l'église, de leur apporter la bonne nouvelle. Donc, je vais juste résumer un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a vu que Paul, il a une vision claire. Il sait exactement son appel. Il sait ce que Dieu veut de lui et il sait là où Dieu il veut qu'il prêche, là où Dieu il veut qu'il partage. On voit deuxièmement qu'il accueille cette mission vraiment comme un cadeau et avec un cœur de serviteur. Et il va répondre à cette mission comme en donnant une offrande à Dieu. Et puis troisièmement, on voit que c'est un homme qui se projette dans l'action. Il ne laisse pas juste cette vision rester dans sa tête. Ah oui, voilà ce que Dieu il veut de moi, c'est très bien. Il la met en pratique et il planifie. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en réalité, il est, pour des raisons, d'autres raisons qu'on connaît, il n'est jamais allé en Espagne lui-même. Mais on sait qu'il a cette envie, cette projection. Il est quand même allé en Rome, mais il est allé en tant que prisonnier, pas de son propre moyen. Donc, on voit que même si le plan ne se déroule pas exactement comme nous on pensait que ça allait se dérouler, le fait de se mettre en action, le fait de... C'est béni par Dieu et c'est important. Et on a aussi vu d'autres manières que d'autres personnes, d'autres appels qu'il pourrait y avoir. Il avait besoin de gens pour l'accueillir. Il avait besoin de gens pour aller avec lui, pour l'accompagner. Il avait besoin de gens pour donner de l'argent pour une autre église. Il avait besoin de gens pour de personnes pour prier pour lui. Donc on voit aussi d'autres appels concomitantes. Paul tout seul n'arrive à rien, mais c'est toute l'Église qui le soutient dans ses missions, dans son œuvre. Donc pour finir, pour conclure, je veux vous poser trois questions. Un peu pour se demander où est-ce qu'on en est. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma vision? Est-ce que j'ai une vision claire de ce que Dieu il me demande de faire? Parce que la question, ce n'est pas de savoir si on est en mission ou pas, c'est de savoir quelle est notre mission. Parce qu'en tant que disciple de Christ, on est tous en mission. Donc, est-ce que j'ai cette vision claire? Oui ou non? Si oui, ben, c'est quoi? Sinon, je vais vers Dieu. Je me mets dans sa présence et je lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Je pense que la vision claire, c'est tellement quelque chose de si important. Je le vois aujourd'hui dans notre église. Notre frère Joël nous guide par rapport au bâtiment. C'est une vision claire. Prépare le bâtiment pour accueillir des personnes, pour qu'on puisse prêcher l'évangile là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que plein de personnes ont rejoint cette vision claire et ont œuvré vers cette vision. Mais s'il n'y avait pas cette vision claire, on ne saurait pas quoi faire. Pourquoi est-ce qu'on met le sol ou pas, ou est-ce qu'on... Non, on a cette vision claire. Ensuite, la deuxième question, donc, est-ce que j'ai une vision claire, oui ou non? Comment est-ce que j'accueille la mission que Dieu me donne? Est-ce que je l'accueille comme un cadeau ou comme encore une chose à faire sur ma to-do list? Est-ce que j'y réponds par ma propre force? Par mes propres forces, ou est-ce que j'y réponds par l'Esprit Saint, par Dieu, par la force que lui me donne? Est-ce que je lui fais confiance pour ça? Est-ce que ce que je lui fais, je fais un travail moyen et je laisse aller, c'est pas très grave? Ou est-ce que c'est vraiment une offrande que j'offre à Dieu, mon travail que je fais? Et troisièmement, est-ce que mon appel se traduit dans mes actions? C'est-à-dire, on pourrait très bien avoir un appel, mais faire complètement autre chose. Mais on voit que Paul, il travaille, tout ce qu'il fait, elle répond à cet appel, à cette vision. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par exemple quand il dit « C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. » Il avait envie d'aller à Rome. C'est ce qu'il voulait, lui, Paul, voulait aller voir ses frères et sœurs de Rome. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il avait son appel, sa vision qui l'en empêchait. Donc parfois, rester fidèle à sa vision, c'est dire non à d'autres choses. Parfois, c'est couper d'autres choses. Donc c'est cette question aussi, est-ce que mon appel, est-ce que cette vision que Dieu m'a donnée et que j'ai le plaisir de répondre, est-ce qu'elle se traduit réellement dans mes actions? Ou est-ce que je fais autre chose? Donc voilà, où est-ce que j'en suis par rapport à ma vision? Est-ce qu'elle est claire? Et parfois, en temps de Covid en particulier, et c'est pour ça que je suis reconnaissant pour ce message dans ma propre vie aussi, dans ce temps de Covid, on perd un peu de clarté au niveau de cette vision, parce que nos circonstances sont plus pareilles, elles sont plus comme elles étaient. Donc peut-être que notre vision de départ, elle fait plus sens dans le contexte actuel. Et donc comment revisiter cette vision? Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour moi tout ça? Comment est-ce que je te rejoins dans ce que toi tu veux faire malgré les changements? Donc je pense pas que la vision soit non plus quelque chose qui soit permanent, mais c'est quelque chose qu'on doit nourrir et qu'on doit vivre avec le Christ. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis avec ma vision? Comment est-ce que j'accueille cette mission? Et est-ce que c'est une réalité dans mes actions? Voilà. Merci à vous. Et je vais juste peut-être prier pour nous en tant qu'Église pour cela. Seigneur, on veut te remercier pour ton appel sur ton Église, qui est une appel forte et claire et cohérente et de tout temps. Et Seigneur, on veut te rejoindre là-dedans en tant que communauté, mais aussi, Seigneur, en tant qu'individu. Et merci de nous donner à chacun une vision cohérente et claire selon ce que tu nous as donné, selon les cadeaux que tu nous fais. Seigneur, prépare nos cœurs pour accueillir aussi ton appel, qu'on ait des cœurs de serviteurs, des cœurs prêts à t'honorer, des cœurs prêts à mourir à nous-mêmes. Et Seigneur, que cet appel puisse pas juste résonner dans le vide, mais Seigneur, qu'elle puisse se traduire dans nos actions de tous les jours. Que tu sois loué, Seigneur. Donne-nous chaque jour, Seigneur, donne-nous ce qu'on peut faire pour toi. Amen.